Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Très bon début de journée à vous tous qui nous rejoignez sur France Culture pour le service protestant. Nous recevons aujourd'hui le pasteur Marc Dereux, secrétaire général de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France. Et c'est la prière qui va être au cœur de notre rencontre ce matin en nous appuyant sur un psaume, le psaume 85. Bonjour Marc.
Bonjour Michel.
Alors la prière est souvent au cœur de la spiritualité, quelle que soit la religion d'ailleurs. Mais pourquoi vous avez voulu aujourd'hui vous arrêter sur cette pratique ?
Alors c'est vrai que c'est au cœur de la spiritualité, mais en même temps, c'est quand même compliqué de prier. Qu'est-ce qu'on va dire ? Quels mots employer ? Est-ce qu'il y a des mots particuliers qu'il faut employer plutôt que d'autres ? Prier ne va pas de soi, en tout cas, pour tout le monde. Il y a des personnes avec qui, pour lesquelles, en tout cas, c'est facile de prier. Oui. Et puis d'autres pour lesquels les mots arrivent difficilement, ils annonnent, ils savent pas comment s'adresser aussi à Dieu. Est-ce qu'il faut déjà le vouvoyer, le tutoyer ? C'est pas d'une tradition à l'autre. Et puis qu'est-ce qu'on va dire ? Est-ce qu'on va vraiment épancher son cœur ? Est-ce qu'on peut le faire dans la prière ? Est-ce qu'on a le droit de le faire ? Ou est-ce qu'on va annonner des redites en fait ? Des choses qu'on a apprises, mais qui ne nous touchent pas vraiment. Donc, prier n'est pas si évidente que cela, alors que c'est au cœur de la vie du croyant.
Alors, c'est vrai que même les apôtres, même les disciples de Jésus, lui demandaient de leur apprendre à prier.
Tout à fait, et c'est très étonnant dans les évangiles quand justement Jésus va leur apprendre la prière dite du Notre Père, cette prière qui est partagée dans toutes les confessions chrétiennes, qu'on a en commun dans toutes les confessions chrétiennes. C'est assez étonnant cette interpellation des disciples de Jésus, apprends-nous à prier. Comme si, alors qu'ils sont dans une tradition quand même, la tradition juive, qui a l'habitude de prier aussi, qui est une tradition priante, que ces mêmes disciples-là demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Et c'est là où Jésus va instruire les disciples et nous instruire par la même occasion sur le Notre Père, et quelque part un canevas de prière.
Oui. Donc si vous voulez prier, dites Notre Père, etc. Donc cette prière qui est transmise et qui nous a rejoint à travers les siècles,
tout à fait,
telle quelle.
Mais qui permet aussi, enfin si je peux me permettre, qui permet aussi de porter parfois la prière lorsqu'on n'a rien, enfin lorsqu'on ne sait pas quoi dire
ou comment le dire.
Comment le dire, voilà. On porte parfois en soi des sentiments qu'on ne sait pas parfois exprimer non plus aussi. Oui. Et on a besoin parfois d'un canevas, on va dire, de prière, parfois des prières comme le Notre Père
qui peut aussi nous recentrer et nous ramener à l'essentiel.
Tout à fait.
De ce qu'on peut demander à Dieu ou exprimer à Dieu. Mais il y a d'autres prières dans la Bible, je le disais en introduction, on va s'arrêter aujourd'hui sur le psaume 85, mais il y a tout un livre consacré à ces psaumes qui sont en fait des prières aussi, alors qui n'ont rien à voir avec le Notre Père, mais qui sont aussi des expressions de ce qu'on peut essayer d'adresser à Dieu.
Tout à fait. Alors ça a à voir avec le Notre Père dans le sens où quelque part c'est à travers des mots posés aussi dans des poèmes, puisque les psaumes peuvent être comparés à des poèmes d'aujourd'hui aussi, dits dans un temps particulier aussi. Alors et à travers l'histoire aussi de la révélation de Dieu dans le peuple d'Israël. Mais prier, et ça rejoint le Notre Père, c'est s'adresser à Dieu, c'est vouloir s'adresser à Dieu. Alors en s'adressant à Dieu, qu'est-ce qu'on va dire ? Comment on va le dire ? Oui. Et alors il y en a qui savent prier, et ceux-là peuvent nous apprendre. Et quelque part les psalmistes, c'est-à-dire les auteurs des psaumes, ont montré qu'ils savaient prier. Ils ont posé la plume ou l'encre, je ne sais, ou le stylet, pour exprimer les choses qui sont dans leur cœur et qu'ils ont envie de dire à Dieu, mmh. hein, de dire, d'exprimer à Dieu. Et quelque part, ça nous rejoint aussi parce que ces expressions aussi sont quelque part les nôtres. Et d'ailleurs, c'est étonnant de voir combien les psaumes sont toujours d'actualité et ont toujours été d'actualité aussi à n'importe quelle période de la révélation de Dieu dans l'histoire humaine. Et les psautiers, en tout cas des réformateurs aussi, montrent combien les psaumes ont porté la vie du croyant. À l'époque, en tout cas des réformateurs, au Moyen-Âge et autres, les psaumes étaient le moyen aussi, mnémotechnique, d'apprendre des choses aussi sur Dieu.
Alors ce qui est étonnant avec ces psaumes, c'est que ils sont un peu comme nous, très contrastés. C'est-à-dire que on va trouver à la fois presque une évidence de la présence de Dieu, puis en même temps un cri de cette absence, de cette non-réponse, de cette détresse, et puis en même temps la louange, et puis l'assurance que Dieu est toujours là.
Alors, les psaumes, enfin c'est là où on a une très très grande variété, en particulier dans le livre des psaumes, mais on trouve des psaumes aussi dans d'autres livres de la Bible que dans le livre dit et appelé des psaumes. Mais ce qu'on peut voir, c'est la manière dont les auteurs utilisent ce moyen de s'adresser à Dieu. Et ils l'utilisent pour dire non seulement leur reconnaissance, leur joie d'appartenir au Seigneur, mais tout le cri de souffrance qu'ils peuvent vivre sur le moment, l'incompréhension, voire même parfois le doute de la présence de Dieu, de l'action de Dieu dans leur vie. Et de savoir le dire, l'écrire et le dire permet aussi de s'exprimer à Dieu. Et je suis persuadé aussi que Dieu sait entendre cela aussi. Et ça permet aussi de pouvoir exprimer les sentiments les plus profonds qui se trouvent en nous et les plus contrastés aussi parfois quoi hein. Donc comme je le disais, colère, inquiétude, détresse, souffrance sont au cœur aussi des psaumes qui relatent la reconnaissance, la louange, l'adoration, etc.
Alors avant de découvrir ce psaume 85 là, peut-être vous allez nous dire qu'il a écrit, il y a plusieurs psalmistes hein, et c'est lequel là qui
alors,
a écrit ce
on connaît surtout le roi David hein, comme l'auteur des psaumes, de très très nombreux psaumes, de la plupart des psaumes, mais pas seulement. Il y a le roi Salomon aussi, et puis il y a d'autres inconnus aussi qui ont écrit de nombreux psaumes et qui sont relatés dans les textes bibliques. Et notamment, vous trouverez beaucoup de psaumes dont les auteurs sont dits les fils de Corée. Oui. Alors, il s'agit plutôt d'une confrérie, peut-être familiale, hein, qui s'occupait dans le temple d'entraîner le peuple dans la louange, dans la prière. Une manière aussi d'exprimer, comme on a peut-être les vitraux dans certaines cathédrales, dans certaines églises, pour dire la foi, pour exprimer la foi, et pouvoir nous projeter aussi dans une vie avec Dieu, dans une vie pour Dieu aussi. Et donc les fils de Corée étaient quelque part ce qu'on appelle maintenant peut-être le groupe de louanges, ou oui. L'ensemble liturgique, hein, et qui écrivaient aussi les cantiques, qui allait être chanté par le peuple, qui allait être porté par le peuple, proclamé par l'ensemble du peuple. Donc les fils de Corée ont rédigé, je sais pas si combien ils étaient en tout cas, ont rédigé ce psaume 85.
Mais on va le découvrir, je vous laisse nous en faire la lecture.
Voilà, psaume du groupe de Corée, qui est pris dans le livre du chef de chorale. Seigneur, tu as montré ton amour pour ton pays. Tu as rendu ton ancienne situation au peuple de Jacob. Tu as effacé les fautes de ton peuple, tu as pardonné tous ses péchés. Tu as mis fin à ta colère, tu as abandonné ta violente colère. Reviens vers nous, Dieu notre Sauveur, ne nous en veux plus. Est-ce que tu seras toujours furieux contre nous? Est-ce que ta colère nous frappera de génération en génération? Est-ce que tu ne reviendras pas nous rendre la vie pour que ton peuple se réjouisse en toi? Seigneur, montre-nous ton amour. Sauve-nous.
Vous êtes toujours à l'écoute du service protestant sur France Culture. Nous sommes avec le pasteur Marc Dereux et aujourd'hui, c'est la prière qui est au cœur de notre propos en nous appuyant sur le psaume 85 dont nous avons entendu la lecture il y a quelques instants avant la musique. Une première partie de ce psaume a été lue et peut-être on peut déjà faire quelques remarques sur cette première partie qui montre déjà tout à l'heure, je parlais des psaumes contrastés et déjà là dans cette première partie on sent bien que on s'adresse à Dieu, on lui pose des questions, on s'inquiète, à la fois il fait peur mais on a envie qu'il nous rassure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Marc? Je vous invite à ouvrir vos Bibles hein, sur ce texte parce que c'est intéressant de l'avoir sous les yeux pendant qu'on en parle. C'est bien le psaume 85 que vous allez trouver bien sûr dans le livre des psaumes de vos Bibles.
Alors ce psaume, effectivement, on a deux parties qui se répondent aussi quelque part. Oui. Voilà. Mais cette première partie est une sorte de cri intérieur aussi. C'est le débat intérieur aussi que l'on peut vivre les uns les autres. Peut-être que certains de nos auditeurs sont en train de vivre aussi ce tiraillement entre le fait de se souvenir de choses que Dieu a faites, la reconnaissance aussi que Dieu est intervenu de telle et telle manière. Alors, c'est plus ou moins flou des fois en nous, plus ou moins flou dans notre souvenir aussi, mais quelque part on se dit, mais oui, Dieu existe, ok, je l'ai même vu à l'œuvre de certaines manières, mais pourtant là dans la situation que je traverse, qui est une situation difficile, dans laquelle l'inquiétude vient me ronger, où est Dieu ? Où est Dieu là-dedans? Et est-ce qu'il va revenir aussi, agir de manière bienfaisante, bienveillante, avec amour, avec attention aussi pour ma vie, voir la vie aussi de mes proches. Donc on a cette tension-là qui existe chez le croyant, qui s'exprime dans cette première partie du psaume, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'interrogations, comme il peut y avoir énormément d'interrogations aussi dans notre propre vie.
Il y a là aussi une sorte de reconnaissance des péchés. Aussi, enfin, on appelle ça comme ça d'un point de vue un peu liturgique, mais quand il dit, quand le psalmiste dit « Tu as effacé les fautes de ton peuple, tu as pardonné tous ses péchés », il y a à la fois la reconnaissance d'avoir péché et à la fois cette certitude d'être pardonné.
Tout à fait. Alors, c'est important aussi de définir un petit peu ce qu'est le péché. Oui. Et dans l'Ancien Testament et avec la reprise, d'une certaine manière, du Nouveau Testament et de la bonne nouvelle que nous entendons du pardon de Dieu en Jésus-Christ, la notion de péché n'est pas simplement les conséquences du péché ou la manière de faire, le comportement. Ça, c'est la partie visible, j'allais dire, de l'invisible qu'est le péché. Et le péché... originellement, c'est rater la cible. C'est rater la cible. Rater ce que Dieu veut, ce qui est bon aussi pour nous. Et par notre comportement, par notre orgueil, le plus souvent, nous ratons ça. C'est-à-dire que nous refusons d'entrer dans ce que Dieu nous propose de vivre. Et du coup, ça occasionne les péchés. Et c'est ça qu'a compris aussi le psalmiste ou les psalmistes, l'auteur, là, les auteurs du psaume. C'est ce tiraillement-là, effectivement. Oui, alors, on s'éloigne de Dieu à partir du moment où on choisit un chemin de péché, c'est-à-dire de rater la cible que Dieu nous propose. Mais Dieu est celui qui nous rejoint aussi et qui nous pardonne. Voilà. Mais de quelle manière il va le faire? Quel est ce Dieu-là aussi? Et on a souvent une image peut-être d'un Dieu qui nous écrase, d'un Dieu qui nous juge, qui nous regarde de haut. Et là, le lecteur, avec le psalmiste, va peut-être découvrir un autre Dieu.
Voilà.
Avoir une autre conception, pas un autre Dieu, mais avoir une autre conception de ce Dieu qui l'enferme peut-être dans un moule particulier.
Voilà. Alors là, on va peut-être du coup pouvoir découvrir la deuxième partie du psaume où on va se retrouver dans un autre registre et on va retrouver la parole et pouvoir l'entendre, cette parole. Je vous laisse nous faire découvrir la deuxième partie de ce psaume 85, Marc Thereux.
Et on commence avec ce verset qui est le verset 9 du psaume 85, qui est le psaume 84 dans d'autres traditions.
Dans d'autres traditions, voilà, 85, 84, vous le retrouverez.
Mais ce verset 9 est un verset charnière là, dans ce psaume. Hein. J'écoute ce que Dieu dit.
Voilà.
Et voilà ce qu'il dit de lui, Dieu. Le Seigneur promet la paix à son peuple, à ses amis fidèles, mais qu'ils ne reviennent pas à leur folie. Le Seigneur sauvera bientôt ceux qui le respectent, et sa gloire habitera notre pays. Amour et fidélité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La fidélité monte de la terre et la justice descend du ciel. Le Seigneur lui-même donne le bonheur, et notre pays donne ses récoltes. La justice marche devant le Seigneur, elle prépare le chemin devant lui.
Voilà. Alors là, on change vraiment de registre. Et là, on est dans quelque chose qui nous qui rassure. Et il y a des promesses dans cette deuxième partie.
Tout à fait. Il y a la promesse d'un Dieu attentif, d'un Dieu qui prend soin et d'un Dieu surtout qui apporte la paix. Là où il y avait l'expression de l'inquiétude, ça, c'est la première partie du psaume. Oui. À travers plein de questions, de questionnements, etc., de débats internes qui se jouent d'un seul coup, comme si on avait une sorte de mouvement de tempête intérieur. Oui. Il y a là, avec ce verset, j'écoute ce que Dieu dit, comme une pause. Et là, de suite, c'est la paix qui est mise en avant. Le Seigneur promet la paix. Le Seigneur promet la paix. Donc un apaisement. Et on peut se souvenir aussi d'autres textes dans les évangiles. Et je pense à la tempête apaisée, où Jésus est avec ses disciples dans la barque malmenée par les flots.
Oui.
Et Jésus dort même. Et ses disciples disent, mais attention, tu vois bien qu'autour de toi c'est la tempête et toi tu dors. Et là Jésus de dire, mais vous manquez de foi. Vous manquez de foi.
Et cette fois-ci, on peut dire que la foi et la confiance ont la même.
Tout à fait. Ont la foi même et confiance, c'est, voilà. c'est le même mot qui est utilisé dans la Bible.
Donc Jésus, confiance. Il peut dormir tranquillement dans la tempête parce qu'il a confiance, il a la foi.
Oui. Et il veut cette confiance aussi. Il veut transmettre cette confiance là aussi à ses disciples. Et Jésus se lève et il apaise les flots et le calme revient. On a un petit peu ce mouvement là aussi dans notre texte du psaume 85, un mouvement intérieur très agité et c'est comme si quelque part on a tout déballé à Dieu, comme si on a tout déballé à Dieu, hein, comme quand on est face à quelqu'un à qui on veut dire plein de choses. On vide son sac, à qui on reproche aussi de ne pas être suffisamment présent, etc. Ouais. Et puis on est à bout, au bout des mots que l'on peut dire, au bout du ressenti que l'on peut exprimer. Et là, on est dans une attitude d'écoute, on a tout dit, et là c'est Dieu qui parle. Et Dieu n'est pas en train de dire, bon ben voilà, ce que t'as fait c'est pas bien, ou on le sait, on le sait déjà, on a compris cela. Mais Dieu redit qui il est pour nous. Et là, c'est dire que c'est un Dieu de paix, un Dieu qui apporte l'amour, la fidélité, la confiance, hein, et qui veut, à travers notre vie, la justice et la paix.
Et puis là aussi, il y a un changement d'attitude. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a, on déverse son angoisse, on déverse sa peur, on déverse sa frustration. Et puis d'un seul coup, on se met en position de recevoir. Et avec ce « j'écoute », et d'un seul coup, tout est changé.
Tout à fait. Le fait de découvrir peut-être la manière dont Dieu veut se laisser découvrir à nous. Parce qu'on a souvent des conceptions et des images de Dieu qu'on projette, de qui est Dieu aussi. Dû à notre arrière-plan, dû à notre éducation, à la tradition dans laquelle on baigne.
Mais il
On se retrouve sur le service protestant avec vous, Marc Dereux, et on continue à parler de ce psaume 85, et à travers lui, nous parlons essentiellement de la prière et de la relation de l'homme avec Dieu. Et vous avez évoqué dans la discussion Jésus et sa façon d'être en confiance, d'avoir la foi. Alors que, bon, nous parlons de ce psaume 85 qui a été écrit longtemps avant que Jésus arrive. Donc, comment vous faites une transition entre les psaumes et la foi évangélique, finalement ?
Alors, comme je le rappelais avant cette pause musicale avec Pat Berning, loin, en tout cas, du Dieu juge, imposant, Dieu se présente en fait ici, déjà, dans le psaume 85, comme un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Donc il y a cette volonté, en tout cas, de proximité que Dieu a envie de vivre. Et quelque part, on a là le cœur de l'évangile, déjà annoncé. À partir du moment où il y a cette charnière-là, j'écoute ce que Dieu dit. Et puis, il y a quelque chose de central dans le psaume, c'est cette notion de vérité et d'amour, que l'on retrouve justement, vérité et grâce aussi, hein, que l'on retrouve dans le Nouveau Testament. Et en particulier, ça fait écho à ce qu'on appelle le prologue dans l'évangile de Jean.
Oui.
Le premier chapitre de l'évangile de Jean, qui présente à la fois celui qui ouvre le chemin, Jean-Baptiste, et qui présente Jésus avant de décrire son ministère et les faits marquants, les signes, en tout cas marquants, de son ministère. Et dans le prologue de Jean, on peut lire ceci. La parole est devenue un homme et il habitait parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. C'est la gloire du Fils unique, plein d'amour et de vérité, de grâce aussi. Certaines traductions disent de grâce et de vérité. Oui, nous avons tous reçu une part de sa richesse. Nous avons tous été remplis de son amour. Et de plus en plus, Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais l'amour et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Et personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit auprès du Père, nous l'a fait connaître. Donc, en réponse à tous ces cris, en tout cas d'angoisse, Dieu répond. Mais Dieu répond en personne, en sa personne, à travers la personne de Jésus-Christ, et aussi avec des paroles d'avenir, avec des paroles d'espérance. Et ça, on retrouve cette notion aussi d'amour et de vérité, de dire les choses avec amour et vérité, dans une épître de Paul, dans Éphésiens en particulier.
Alors, quand on dit vérité, j'aime bien qu'on précise un petit peu ce que ça veut dire, parce que il y en a qui pensent et qui essayent de nous convaincre de la vérité, ou qui pensent détenir la vérité. Il y a aussi la vérité dont parle Jésus quand il nous dit « je vous parle en vérité ». Et dans ce cas-là, il s'agit plus d'authenticité, de l'être. Et est-ce que c'est de ça dont il s'agit quand vous parlez de vérité ?
La notion de la vérité est une notion philosophique complexe.
Oui.
Et en fait,
ça vaut le coup de préciser.
Et en fait, elle est simple, en tout cas, pour moi, à travers les évangiles et le Nouveau Testament. et l'Ancien Testament aussi, qui parle de vérité. Vérité liée à la fidélité. D'ailleurs, dans ce psaume, c'est lié aussi, vérité, fidélité. Fidélité, c'est l'authenticité aussi, et garder une authenticité, garder une honnêteté oui. de soi, en soi aussi, vis-à-vis des autres, dans ma relation avec les autres. Et dans l'évangile de Jean, c'est Jésus lui-même qui dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie
oui. ».
Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et lorsque Jésus dit aussi « En vérité, je vous le dis »,
c'est ça.
C'est oui. parce que c'est lui qui le dit, en mmh, vérité. Lui, la vérité. Donc la vérité est une personne qui nous accompagne, mais qu'on doit suivre aussi jour après jour, qu'on doit interroger. Et quelque part, comme le psalmiste, savoir l'interroger à travers aussi nos angoisses, nos doutes intérieurs, et de pouvoir lui dire ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Et c'est de cette manière-là qu'on pourra vivre de manière authentique, essayer de vivre authentiquement, à l'image aussi de celui qui est la vérité, qui nous montre, qui nous ouvre aussi un chemin. Donc la vérité, plus que de la détenir, je préfère que je sois dans la vérité plutôt que d'avoir la vérité. Mmh. Et avoir la vérité, quelque part, c'est enfermer Dieu. Être dans la vérité, c'est vouloir être en Dieu.
Merci beaucoup Marc Dereux. Pour terminer cette émission, vous nous proposez maintenant de partager avec vous une prière.
Voilà, c'est une prière pour que l'Église de Jésus-Christ, et donc nous-mêmes qui nous reconnaissons peut-être dans cette Église, et peu importe les traditions, je veux dire, dans lesquelles nous nous trouvons, mais si nous reconnaissons en Jésus-Christ, nous reconnaissons aussi dans sa communauté, que nous appelons l'Église. Et ce que nous voulons, c'est que cette Église soit toujours à son image, juste, authentique, représentation de qui est Dieu, et de surtout comment Dieu veut se présenter aussi lui-même dans le monde, et que cette prière nous y aide. Seigneur, je prie pour ton Église. Je te remercie pour cette communauté rassemblée, rassemblée en vue de faire connaître ta sagesse, ta beauté, ton pardon et ton amour. Seigneur, nous demandons ta bénédiction sur la vie locale des différentes communautés, églises, dans leur engagement dans le monde et la société, pour y manifester l'amour, la vérité, le service et la puissance de ton esprit. Seigneur, ton Église n'est pas ce qu'elle devrait être. Il y a trop de divisions, trop de confusion, trop peu de ton caractère, trop peu de ton amour. J'avoue mes propres échecs dans ce domaine. Je suis aussi responsable que n'importe qui d'autre. Seigneur, je prie pour que ton Église réponde à ton appel à être authentique, au travers d'une expression d'amour, de vérité et de puissance que le monde n'a jamais vue encore. Puissions-nous incarner ta justice, ta fidélité et ta paix. Seigneur, je prie pour que le monde te voie, te connaisse et te reconnaisse, à travers ton Église comme à travers moi. Amen.
C'est ainsi que nous allons terminer ce service protestant sur France Culture. Merci à vous, Marc Dereux. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes pasteur de l'Église évangélique baptiste de France et vous en êtes le secrétaire général. Merci à Dany Journeau et à Éric Boisset pour la réalisation, la prise de son de ce service protestant proposé par Michel Schaeffer pour la Fédération protestante de France. Vous pouvez retrouver cette émission sur les sites franceculture.fr ou protestant.org. Vous pourrez également télécharger le texte qui a servi de base à notre discussion aujourd'hui. Et si vous voulez le recevoir par courrier, vous écrivez au service radio de la Fédération protestante de France, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. À suivre dans quelques instants le journal, puis retrouver Marc-Alain Wachnin pour Talmudique. Je vous retrouve la semaine prochaine à 8h30 pour un nouveau service protestant. Bon dimanche à tous.